Vous écoutez On lit pour vous.
Le nouveau parc du Mont Offord prend forme. Un texte de David Fickerson paru le 2 mai 2026 dans la presse. Ça y est, c'est fait. Le parc national du Mont Offord a presque doublé sa superficie et la CEPAC a commencé les travaux pour établir de nouveaux sentiers de randonnée et une nouvelle paroi d'escalade. Il devrait être possible de parcourir quelques-uns des nouveaux sentiers dès l'automne 2026, juste à temps pour les couleurs. Toutefois, les grimpeurs devront attendre à 2027 et peut-être même 2028 pour accéder à la nouvelle paroi du Mont des Trois Lacs. C'est le 8 avril 2026 que le parc a officiellement intégré de nouveaux secteurs d'une superficie de 48,4 km². Cela donne au parc une superficie totale de près de 108 km², soit une augmentation de 80 %. On a commencé à bien délimiter le territoire avec de petites affiches, parce que c'est important que les gens sachent à quel moment ils entrent dans un parc national, déclare le directeur du parc, Mario Landry. Il est aussi important de barrer certains accès parce que c'est un territoire protégé. À titre d'exemple, les VTT, les véhicules hors route, ne sont pas permis dans les parcs nationaux. La chasse ne sera plus permise sur le territoire touché. On avait mis l'affichage en place à l'automne 2025 et l'automne pour aviser les chasseurs que l'agrandissement s'en venait, note M. Landry. Donc, les chasseurs sont avisés, mais on va continuer à travailler en sensibilisation et en prévention, mais aussi en contrôle du territoire. Il n'y aura pas de guérite aux différents points d'accès des nouveaux secteurs. Il faudra donc acheter son droit d'accès ou son laissez-passer annuel en ligne. Le parc du Mont Offord dispose d'une première enveloppe de 20 millions, répartie sur 3 ans, pour lancer un certain nombre de travaux. Certains éléments ont priorité. D'autres seront réalisés plus tard, comme les centres de services, les hébergements, campings, chalets et refuges, et de nouveaux accès au plan d'eau, avec location d'embarcations. Il y a déjà un sentier de randonnée qui traverse une bonne partie des nouvelles sections, qui fait partie des sentiers de l'Estrie. On va le baliser selon les normes de la CEPAC pour vraiment l'intégrer dans notre réseau, indique M. Landry. Ce sentier a été fermé pour le protéger pendant la période de dégel, mais il devrait rouvrir incessamment. Au cours de l'été, la CEPAC travaillera sur 2 sentiers en particulier, soit une toute nouvelle boucle d'environ 5,5 km au nord-ouest du lac Montjoie, ainsi qu'un sentier de près de 14 km à l'extrême nord du parc, près du ruisseau Golfe. Il s'agira d'une boucle qui s'appuiera sur un tronçon déjà existant, soit une partie des sentiers de l'Estrie. D'autres sentiers viendront plus tard, notamment dans le coin du lac Bray. La CEPAC va également travailler sur l'implantation d'une tour d'observation dans le secteur du ruisseau Golfe et d'une autre près du mont Cathédrale. C'est sûr que les travaux ne se feront pas cet été, mais on va être en étude, plan et devis, indique M. Landry. L'un des nouveaux secteurs du parc du Mont Offord englobe la paroi d'escalade du lac Larouche, qui demeure ouverte et qui bénéficiera éventuellement d'un nouveau stationnement. Cette paroi, aménagée par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, FQME, est déjà la paroi la plus fréquentée de l'Estrie. La toute nouvelle paroi d'escalade du Mont des Trois Lacs se situe dans le secteur Brompton Sud. Elle avait déjà été aménagée en partie dans le passé, mais elle était fermée depuis un bon moment. Compte tenu de son expertise en aménagement d'infrastructures, la FQME serait prête à contribuer à la réouverture de la paroi. À ce jour, nous n'avons reçu aucun mandat officiel de la CEPAC concernant l'aménagement du site du Mont des Trois Lacs, précise Véronique Tessy, directrice des sites d'escalade extérieure à la Fédération. Nous attendons avec intérêt une rencontre avec leurs représentants afin de mieux comprendre leurs plans et leurs échéanciers pour le développement du secteur. Elle note toutefois que la CEPAC et le ministère québécois des Ressources naturelles et des forêts ont bénéficié de l'appui du club d'escalade de la région des Cantons de l'Est, des ouvreurs équipeurs brevetés de la région et de la FQME pour le recensement et l'inspection préliminaire du site. Leur expertise et leur passion témoignent du dynamisme de la communauté et du désir collectif d'enrichir l'offre pour les grimpeurs en extérieur dans la région, déclare Mme Tessier. L'échéancier du développement de la nouvelle paroi dépendra également de l'aménagement d'un nouveau stationnement pour permettre l'accès au secteur. C'est prévu pour une ouverture en 2027 ou, de façon plus réaliste, en 2028, déclare Mario Landry. La première enveloppe de 20 millions comprend également une piste multifonctionnelle qui sera connectée à la piste cyclable La Cavalière, située dans la vieille partie du parc. Cette piste multifonctionnelle pourrait accueillir du ski nordique en hiver. Le chiffre de la semaine, 853, c'est l'altitude en mètres du Mont Offord. C'était « Le nouveau parc du Mont Offord prend forme », un texte de David Ferguson paru le 2 mai 2026 dans La Presse.
Une boutique pour séduire les réfractaires aux secondes mains. Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 30 avril 2026 dans Le Devoir. Malgré l'essor du seconde main, l'achat de vêtements neufs ne ralentit pas et les centres de dons débordent. Pour y remédier, Renaissance ouvrira dans les prochains jours à Montréal la Fibre Atelier, une boutique où les invendus de ces friperies obtiennent une seconde chance de trouver preneur après avoir été remis en état. En proposant une expérience plus proche du magasin traditionnel, l'organisme espère convaincre une nouvelle clientèle de troquer le neuf pour l'occasion. Beaucoup de gens sont ouverts aux secondes mains, mais n'ont pas le temps ni l'envie de fouiller dans nos friperies pour trouver des petits trésors. On va faire le travail pour eux, a déclaré le directeur général de Renaissance, Éric Saint-Arnaud, en entrevue avec Le Devoir quelques semaines avant l'ouverture. L'équipe a choisi de tester ce nouveau concept rue Notre-Dame-Ouest au cœur du dynamique quartier Griffintown. Lors de notre passage, elle s'affairait aux derniers préparatifs protégés des regards indistraits par de grands cartons apposés sur les vitrines. À l'intérieur, on est loin des allées serrées, bondées de vêtements des grandes friperies Renaissance. L'espace, décoré avec soin dans un style vintage chic, présente des portants espacés et organisés par collection pour aider les clients à repérer rapidement les pièces correspondant à leur style. Ici, les vêtements ne proviennent pas directement des centres de dons. Ils ont déjà circulé dans le réseau de Renaissance, friperie ou centre de liquidation Kilo, où tout se vend au poids, sans trouver preneur. Parmi ces invendus, les pièces jugées les plus prometteuses sont sélectionnées, lavées, repassées, réparées, puis intégrés à de véritables collections et vendus à la Fibre Atelier. En premier, c'est l'œil qui repère le potentiel d'un vêtement. Puis, il faut regarder l'étiquette. On a des marques qu'on sait de meilleure qualité. On ne va pas prendre du H&M ou du Shein, par exemple, explique la créatrice de collection Lorraine Archambault. Chaque pièce est ensuite inspectée pour vérifier la réparabilité d'éventuels trous ou taches. On cherche le maximum de qualité pour limiter le temps de réparation et offrir des vêtements à des prix raisonnables, poursuit-elle. Considérant tout ce travail en amont, les prix en boutique seront en moyenne 20 % plus élevés qu'en friperie traditionnelle. Lutter contre le gaspillage. L'idée, à la base, c'est de diminuer cette montagne de vêtements qui ne cesse de grossir et qui finit souvent dans des sites d'enfouissement à l'étranger. J'adore la mode, mais la fast fashion et la surconsommation qui l'accompagne sont une catastrophe pour la planète, déplore la designer Marie-Houche Gagné, fondatrice de la griffe éco-responsable Aricana. C'est elle qui a imaginé le concept de la fibre atelier. Depuis des années, elle cherchait à mettre son expertise au service d'un modèle poussant plus loin la récupération textile. Lorsqu'elle a sollicité Renaissance, l'organisme a immédiatement embarqué. Aujourd'hui, elle joue surtout le rôle de conseillère au développement du projet, ayant accepté entre-temps la direction du Conseil des métiers d'art du Québec. Pour Éric Saint-Arnaud, l'idée de la designer est du génie et correspond aux valeurs et à la mission de Renaissance. L'organisme qui se targue d'avoir le plus haut taux de réemploi au Québec, soit 26 % estime pouvoir atteindre 30 % d'ici peu, grâce notamment à ce nouveau concept. Il vise la vente de 300 pièces par jour à la Fibre Atelier afin d'assurer une rotation constante et, ultimement, de réduire le gaspillage textile au bout de la chaîne. Faire de nouveaux adeptes. Ça prend un changement de paradigme, et vite, poursuit le directeur général. On ne peut pas continuer à surconsommer autant. Il faut que le seconde main devienne un premier réflexe, pas seulement une solution de rechange. Et ouvrir une boutique qui adopte les codes de vente d'un commerce traditionnel fait partie de sa stratégie pour attirer une clientèle qui ne serait pas tentée de mettre les pieds dans une friperie. Cette clientèle qu'on vise, elle est prête à payer plus cher pour des vêtements remis à neuf, soutient-il. Elle veut un service, elle veut être guidée, conseillée, pour repartir avec plusieurs ensembles. C'est ça qu'on va lui offrir. Les gens vont toujours acheter du neuf, mais s'ils achètent en premier usagé, ils auront plus d'argent pour acheter du neuf de qualité. Et pourquoi pas fait ici, plutôt que de la fast fashion vendue sur des sites étrangers, ajoute-t-il. La boutique La Fibre Atelier est en soft open depuis le mercredi 13 mai 2026. Les gens du quartier y avaient été conviés pour un 5 à 7. Si le concept fonctionne, d'autres boutiques pourraient voir le jour. C'est beaucoup d'apprentissage. C'est la première boutique, il faut le vivre. Mais on ne se cachera pas qu'on voit ça comme un laboratoire, conclut M. Saint-Arnaud. Lancement de l'initiative Resale. Pour pousser plus loin la valorisation du seconde main, Renaissance a lancé en avril un nouveau partenariat avec l'entreprise Sale. Une sélection de vêtements de sport et de plein air remis en état par La Fibre Atelier est proposée dans deux succursales, à Lachenaie, sur la Rive-Nord, et à Oshawa, en Ontario. Un espace est réservé aux articles d'occasion dans ces magasins. L'objectif? Aller directement au consommateur plutôt que d'attendre qu'il passe la porte des friperies. En faisant entrer le seconde main dans ces grands magasins largement fréquentés par la population, Renaissance souhaite atteindre un plus large bassin de consommateurs et ainsi développer leur réflexe d'acheter d'occasion. L'organisme espère que cette initiative ouvrira la porte à des collaborations avec d'autres chaînes de magasins. C'était Une boutique pour séduire les réfractaires aux secondes mains, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 30 avril 2026 dans Le Devoir.
Que faire avec son sirop coupé au sucre de canne? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 avril 2026 dans La Presse. Début avril 2026, l'émission Enquête mettait au jour une histoire de fraude dans le sirop d'érable. Des clients se sont retrouvés avec le sirop d'un prolifique acériculteur qui pourrait être surtout composé de sucre de canne. Le point en 5 questions. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de rappel dans cette affaire? On se trouve ici devant un cas rare de fraude alimentaire qui a été révélé par des journalistes et non par des tests faits par les autorités provinciales ou fédérales. Ce sont Québec, par l'entremise du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et Ottawa, par l'ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui lancent les rappels alimentaires lorsque la salubrité est en cause ou qu'un aliment pose un risque pour la santé des consommateurs. Les mesures sont ensuite mises en place dans les commerces. Dans ce cas-ci, les initiatives ont été prises par les détaillants qui ont acheté du sirop de Steve Bourdeau. Dans son reportage, l'équipe de Radio-Canada a fait tester 5 conserves de ce producteur et toutes contenaient moins de 50 % de véritable sirop d'érable. L'acériculteur utilisait des conserves génériques et faisait le remplissage lui-même dans son établissement pour ensuite vendre directement aux détaillants. On peut identifier les produits avec le numéro de son entreprise qui est 9227-8712. C'est donc la volonté du commerçant. Oui, plusieurs ont agi rapidement. Chez Métro, le rappel a été lancé avant même la diffusion du reportage le soir du 2 avril 2026 parce que les équipes avaient consulté les informations en ligne. De nombreux autres détaillants ont suivi le mouvement et retiré les conserves, dont les épiceries appartenant aux deux autres grandes enseignes présentes au Québec, Loblaws et Sobeys. Certains promettent un remboursement et spécifient ou non qu'il faut une preuve d'achat. On demande à tous les épiciers de prendre leurs responsabilités et de rappeler les cannes distribuées par M. Bourdeau, précise Joël Vaudeville, directeur des communications des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Les détaillants ont une responsabilité face à la qualité des produits qu'ils mettent sur leur tablette, dit-il. Cela étant dit, la loi protège les consommateurs, rappel ou pas. La loi prévoit qu'un bien ne doit pas avoir de vice caché, évoque Sarah-Ève Levac, avocate chez Options Consommateurs. Le client peut aussi invoquer que le produit qu'il a entre les mains n'est pas conforme à celui qu'il a acheté, du sirop 100% d'érable. Ici, ça n'est pas conforme à ce qu'il y avait sur la conserve qui présentait du sirop pur, ajoute l'avocate. Et si je n'ai pas de reçu? L'idéal est de l'avoir, mais ça n'est pas l'unique preuve d'achat, rappelle Sarah-Ève Levac. Une preuve de transaction ou un relevé sur le programme de fidélité peut montrer qu'il y a effectivement eu achat chez le commerçant si c'est le cas. Il faut toutefois être vigilant. À l'Association des détaillants en alimentation du Québec, on rapporte plusieurs cas de clients demandant un remboursement dans un commerce qui n'a jamais vendu le sirop du producteur de Saint-Chrysostome. Quelle va être la suite de cette histoire? Le regroupement de producteurs acéricoles a déposé une plainte au MAPAC car l'organisation était au courant que l'émission Enquête travaillait sur une histoire de sirop possiblement coupé avec un autre sucre. En ayant des indices sur le producteur visé, le groupe a fait faire des tests au mois de février qui ont aussi révélé une adultération du sirop de Steve Bourdeau. La plainte a été déposée à la fin du mois de mars 2026 à Québec, qu'il a transféré à Ottawa, à l'ASIA, parce que le producteur concerné possède un permis fédéral pour la mise en marché de ses produits et travaille avec des acériculteurs d'autres provinces à qui il achète du sirop, qu'il met en conserve lui-même. Toutefois, questionné à propos de cette affaire, l'ASIA indique dans un courriel envoyé à la presse qu'au Québec, le MAPAC est responsable des aliments, y compris le sirop d'érable, produit dans la province et destiné à la vente au Québec. On ne doit donc pas s'attendre à un rappel de sirop de sitôt. D'autant que le même message de l'autorité fédérale précise ceci. Il incombe à l'industrie agroalimentaire de veiller à ce que tous les produits alimentaires qu'elle vend au Canada respectent les exigences légales canadiennes. Les autorités gouvernementales doivent s'assurer que les produits présentés sur les tablettes respectent les normes en vigueur de qualité, de salubrité et qu'ils ne soient pas frauduleux, indique Joël Vaudeville. Quel est l'impact sur les producteurs de sirop? En pleine saison, les producteurs québécois auraient souhaité meilleure publicité. Il y a un sentiment de trahison, dit Joël Vaudeville, qui rappelle qu'il s'agit là d'un cas unique. Le regroupement fait des tests sur le sirop qui passe par son agence de vente et cela représente 90 % du sirop produit ici. Joël Vaudeville a aussi ce conseil. Profitez des semaines qui arrivent pour faire le plein directement chez le producteur. Ce lien de confiance assure la qualité. C'était Que faire avec son sirop coupé au sucre de canne, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 avril 2026 dans La Presse.
Les clubs de course à la rescousse de la vie sociale. Un texte de Stéphanie Bogue-Kerr et Nicolas Moreau, paru le 30 avril 2026 dans La Presse. Stéphanie Bogue-Kerr est professeure à l'Université de Regina. Nicolas Moreau est professeur à l'Université d'Ottawa. La course à pied, longtemps perçue comme une pratique monotone, ennuyeuse et génératrice de blessures, connaît actuellement un intérêt marqué, surtout auprès de la génération Z, ce qui se traduit par un nombre d'adeptes en constante augmentation, mais aussi par des changements dans la manière de pratiquer ce sport. La course à pied est aujourd'hui une activité communautaire et sociale. Les premiers clubs sociaux de course à pied ont émergé dans les rues de New York en 2003, période où le nombre de coureurs à pied stagnait. Ces clubs avaient alors pour objectif d'explorer la ville en groupe, ce qui les différenciait des clubs d'athlétisme traditionnels. Ainsi, ces clubs de course 2.0 ont attiré, dès leur apparition, de nouveaux coureurs, davantage intéressés par le lien social que par la stricte performance sportive. Les marques de sport n'ont pas voulu laisser passer l'occasion de fidéliser une nouvelle clientèle. Conséquemment, des enseignes sportives ont commandité plusieurs communautés de coureurs, puis ce fut le cas de cafés, de commerces et de microbrasseries. Néanmoins, au-delà des liens avec les entreprises commerciales, les clubs de course révèlent également certaines dynamiques propres aux villes dans lesquelles ils s'inscrivent. Quel sens accorder à l'émergence et au développement des communautés de coureurs dans la grande région de Montréal? Un confinement qui a modifié notre conception de la vie sociale. Au printemps 2020, le calendrier culturel de Montréal s'est subitement mis en veille. Les portes des nombreux cafés et restaurants se sont ainsi fermées brutalement. C'est dans ce contexte qu'est né le premier 6AM Club à Blainville. D'autres clubs se sont ensuite développés rapidement partout au Québec. Le format est simple. Une course sociale d'environ 5 à 6 km à une heure très matinale, 6 heures, s'achevant par la prise d'un café. Ces clubs, s'ils sont bien nés durant la pandémie, n'ont cependant pas disparu à la fin du confinement. Depuis quelques années, nous constatons même une multiplication des clubs sociaux à Montréal, chacun proposant ainsi une expérience de course à pied spécifique et unique en fonction de la population ciblée. BIPOC, queer, coureurs ne se sentant pas à leur place dans les clubs de course traditionnels, etc. Si la pandémie a modifié notre rapport à l'espace de travail, télétravail, elle a donc également transformé le monde de la course à pied. Mais pourquoi les personnes ne se lèvent-elles à l'aube pour courir dans les rues d'une ville encore endormie? C'est ce que nous avons cherché à savoir en interrogeant les coureurs du 6AM Club Plateau qui, depuis plus de 4 ans, partent tous les vendredis matins d'une boulangerie située à l'angle de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-Denis, pour se rendre à la montagne. Le trajet semble apprécié pour sa diversité au fil des saisons. Le calme des journées enneigées, les premiers bourgeons du printemps, la fraîcheur du matin en été, les couleurs de l'automne et, surtout, les levées du soleil, peu importe les saisons. Avant même son réveil, les membres de ce 6AM Club ont donc pris le pouls de la ville par l'entremise notamment de la vue plongeante qu'offre le belvédère du Mont-Royal. La ville est encore endormie et elle t'appartient. Il est particulier ce moment-là, nous a ainsi lancé une coureuse. Le tout se termine avec un café pris en groupe à la boulangerie qui offre 10% de rabais aux coureurs pour clore le rituel de course. Les sources de motivation pour venir courir avec le 6AM Club Plateau sont plurielles. Pour certains pratiquant ce sport de façon compétitive, Ce dernier permettait d'avoir une sortie hebdomadaire moins soutenue, alors que d'autres coureurs, plus solitaires ou en manque de temps, en profitaient pour socialiser. C'est rare dans nos vies d'avoir des personnes qu'on voit toutes les semaines. Entend-on? La génération Z, née entre 1997 et 2012, au rendez-vous. Un autre phénomène pouvant potentiellement expliquer cette croissance des clubs de course est la génération Z. Deux éléments peuvent être mentionnés. Premièrement, cette génération présente un intérêt marqué pour le bien-être physique et mental, mais aussi pour l'apparence physique. Les groupes communautaires de course permettent ainsi de pratiquer une activité physique, de travailler sa santé. Un autre élément caractéristique de cette génération résulte de leur socialisation primaire qui fut tapissée d'activités sociales structurées et surveillées. Explorer la ville par l'entremise des clubs de course communautaires peut ainsi être vu comme une façon de découvrir et de s'approprier ses quartiers. Courir est ici possiblement synonyme de liberté, une façon de s'approprier son quartier. Couplé à un parcours qui traverse le parc du Mont-Royal, longe le canal de la Chine ou traverse des rues dotées d'anciennes églises converties en lieux de spectacle ou en habitation, le rituel de la course, puis du café, pâtisserie, 5 à 7 d'après-course, s'inscrit dans la vie sociale et culturelle montréalaise dans un contexte où l'augmentation du coût de la vie et des loyers limitent de nombreuses personnes aux sorties sociales plus traditionnelles, restaurants, spectacles. Alors que les communautés de coureurs ont émergé dans les grandes villes nord-américaines depuis une vingtaine d'années, leur croissance est relativement récente à Montréal et témoigne de changements sociaux et locaux importants. Ces clubs communautaires de course nous rappellent également, à l'heure du télétravail, que les liens sociaux occupent toujours une place de choix dans la vie montréalaise. C'était les clubs de course à la rescousse de la vie sociale. Un texte de Stéphanie Bogue-Kerr et Nicolas Moreau, paru le 30 avril 2026 dans La Presse.